Anxiété, angoisse, stress ou encore phobie, voici des termes que les jeunes utilisent pour exprimer globalement de la peur. Alors cette peur, elle peut s'avérer normale face à un danger réel, mais parfois cette peur devient excessive. C'est celle qui nous fige sur place ou bien encore celle qui crée de la panique. Cette panique que l'on retrouve chez certains jeunes qui ne veulent plus aller à l'école ou encore prendre les transports en commun. Voilà, juste quelques exemples pour parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, de l'angoisse. Alors pourquoi tant de stress? Comment le gérer? Quand consulter? C'est ce que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui dans ce nouveau conseil de famille. Avec aujourd'hui dans ce studio, Maude Fréchou, qui est psychologue pour l'école des parents et des éducateurs. Bonjour Maude.
Bonjour.
Léa Baltus, qui travaille pour l'association Grandir Ensemble. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et Anne-Marie Kostams, coordinatrice pour le programme de réussite éducative à l'ODEV. Bonjour mesdames.
Bonjour.
L'anxiété chez les jeunes et chez les adolescents, c'est le principal motif de consultation, voilà, chez l'enfant et l'adolescent. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ?
Oui, en fait, tout à fait d'accord. Alors, ce qui est important, de ce qu'on a constaté, en tout cas nous, à l'école des parents, au sein des points accueil écoute jeunes, c'est que bon, le Covid, le post-Covid est quand même là, et qu'on est face à des jeunes qui ont développé énormément d'angoisse. Bon, déjà, la période d'adolescence est une période où l'angoisse est présente, mais c'est qu'elle a été décuplée depuis quelques années, effectivement.
Voilà, avec ce fameux Covid. Anne-Marie.
L'angoisse, oui, évidemment, elle est aussi, c'est un symptôme qui est facilement repérable aussi et qu'on consulte rapidement parce que elle est
handicapante.
Handicapante et vite repérée, soit par l'ado, soit par
par
c'est des émotions qui sont très fortes.
L'angoisse chez l'adolescent aussi, on peut le repérer sur différentes formes parce que là, enfin après c'est la distinction aussi entre les symptômes de l'adolescent et les symptômes de l'âge adulte. Et chez l'adolescent,
je rappelle quand même que l'adolescence n'est pas une maladie. Hein. Tu nous dis les
non,
symptômes.
Non, parce que le l'adolescent exprime son angoisse différemment que l'adulte.
Absolument.
Il y a beaucoup le corps. Voilà, c'est beaucoup, ça passe beaucoup par le corps et par tout ce qui est plein de somatiques, problèmes d'endormissement. Problème de troubles de l'alimentation. C'est-à-dire que il va pas parler l'angoisse de la même manière que l'adulte.
Oui, parce que des fois, cette angoisse, elle arrive subitement ou petit à petit.
Oui.
Mais enfin, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Un adulte qui est angoissé depuis 20 ans, il sait qu'il est angoissé.
Tout à fait.
L'adolescent, il va pas savoir ce qui lui arrive. Donc,
ça.
Il va prendre ça en pleine face, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis, c'est son corps qui va s'exprimer.
C'est ça. Il va pas forcément repérer et relier le fait que ce qu'il est en train de vivre est de l'angoisse. Donc c'est nous les professionnels d'essayer de dépister, de repérer, d'accompagner le jeune. Mais effectivement, c'est pas la même manière de comprendre et d'appréhender cette difficulté-là, quoi.
Léa, vous recevez des enfants, des ados angoissés? Est-ce que c'est un thème que vous travaillez à l'association Grandir Ensemble?
On travaille beaucoup avec les parents sur l'angoisse, oui. Leur propre angoisse qu'ils peuvent
transmettre
aux enfants, l'angoisse des parents. Et du coup, l'angoisse de l'adolescent, oui, parce que c'est une période où il y a énormément d'enjeux relationnels, d'enjeux de réussite, en tout cas. Et donc, du coup, plus le parent va avoir un souci à ce niveau-là, une inquiétude forte, du coup, plus l'enfant va développer une forte angoisse par rapport à ça. Donc oui, du coup, on reçoit pas forcément les enfants, mais plus les parents qui constatent des angoisses, qui peuvent aller l'angoisse de l'enfant jusqu'à un désir de s'attaquer soi-même, de se faire du mal à soi-même. Et du coup, quel accompagnement pouvoir amener à cet enfant, lui en tant que parent? Et c'est tout autour de l'écoute.
D'accord.
Se mettre à l'écoute.
Vous êtes plutôt sur une réassurance des parents qui va...
Et une orientation.
Voilà.
Réassurance du parent, une orientation aussi et un accompagnement de quelle posture face à l'angoisse de l'ado est-ce qu'on prend, nous, parents? Parce que notre ado, quand il est angoissé, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes et qui nous inquiète tellement qu'on peut être en perte de ressources à ce moment-là.
Et puis on peut renforcer en tant que parent. Parlons, par exemple, pour prendre l'exemple de l'angoisse de performance, Si les exigences parentales sont énormes par rapport aux notes et etc., forcément, l'enfant, ça va renforcer l'angoisse de performance. Donc
l'enfant va se mettre la pression pour, satisfaire le désir parental.
Et qu'il a peur de pas y arriver et que ce soit trop coûteux et que petit à petit s'installe une angoisse de performance.
Oui, qui peut aller jusqu'à la déscolarisation.
Tout à fait.
Léa, tu voulais rebondir là-dessus ?
Oui, d'autant plus que cette posture qu'on peut prendre parfois en tant que parent, c'est vraiment dans le soutien de l'enfant. En fait, c'est parce qu'on a envie, non pas qu'il réussisse aussi en tant qu'injonction, mais aussi parce que plus il va réussir, plus il va se sentir peut-être bien. Et c'est ça qu'on recherche quelque part à travers cette injonction-là, c'est que l'enfant soit bien dans le milieu dans lequel il évolue, l'école, le collège, le lycée. On a envie qu'il s'épanouisse. Et donc, du coup, ça va passer par cette inquiétude-là de « est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que si tu as envie de réussir, je suis là ?» Et du coup, j'y surinvestis cette posture-là.
Alors, à la Maison des Adolescents, forcément, on reçoit beaucoup de jeunes qui sont angoissés, qui présentent différentes manifestations de cette angoisse. On écoute tout de suite le docteur Pauline Houssineau, qui est psychiatre pour enfants et adolescents à la Maison des Adolescents de Montpellier.
On entend parler d'anxiété, d'angoisse, de stress et même de phobie. Comment on peut faire la différence entre tous ces termes ?
Alors, déjà la peur, qui n'est pas forcément citée, mais ça va être une émotion qu'on peut ressentir parmi d'autres quand on est confronté à un danger ou à une menace qu'on va percevoir. Alors des fois qui sont réelles et puis des fois qu'on va interpréter comme telles. Le stress, c'est une réaction physiologique du corps qui vient se déclencher de la même façon quand on perçoit qu'il y a un écart entre les difficultés auxquelles on est confronté, les difficultés qu'on peut percevoir, pareil, de l'environnement, et puis ce qu'on estime avoir comme ressources pour pouvoir faire face à ces difficultés. Et de se dire finalement, j'ai pas les ressources pour faire face à ce à quoi je suis confrontée, donc ça va entraîner un stress. L'angoisse, c'est un sentiment, un ressenti qui va être intense, sans forcément qu'il y ait un objet de danger ou de menace, mais la personne va avoir une impression de danger imminent sans forcément pouvoir l'expliquer, et ça va être assez fort et inconfortable. L'anxiété, c'est moins fort, par exemple. L'anxiété, c'est plus une inquiétude, un fond permanent qui n'empêche pas forcément de faire les choses, alors que l'angoisse est tellement forte qu'elle peut même bloquer parfois quelqu'un qui était en train de faire quelque chose, y avoir un retentissement sur ce qu'il est en train de faire. Les phobies, c'est une forme de trouble psychiatrique qui vont avoir un objet particulier, et puisqu'on parle de troubles psychiatriques, on peut dire que c'est pas juste une simple peur qu'on peut tous vivre, mais ça dure longtemps, ou c'est trop fréquent et ça entraîne de la souffrance ou un retentissement dans la vie qui fait que ça devient pathologique, gênant, et que ça va nécessiter des soins spécifiques.
On va parler par exemple d'anxiété. À quel moment une anxiété est-elle normale ? À quel moment une anxiété peut devenir pathologique ?
Pour parler de pathologie ou de trouble, on va regarder les critères de durée, d'intensité, et puis surtout de ce que ça vient entraîner dans le ressenti de la personne. Si la personne, elle en souffre, ou qu'elle n'arrive pas à faire ses activités du quotidien, mener à bien des projets, pour les enfants à aller à l'école, pour les étudiants à mener des études ou à travailler ou à réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, à ce moment-là, on peut parler de troubles ou de pathologies.
Est-ce que l'anxiété a toujours une cause ?
On peut retrouver une ou plusieurs causes. En général, ça va être un ressenti de fond d'inquiétude qui va être lié à plusieurs choses, déjà au tempérament de la personne et puis éventuellement à différents événements de vie qu'elle a vécu ou qu'elle est en train de vivre.
Alors, il y a quelques années, on a été tous et toutes confrontés au Covid. Est-ce qu'il y a des anxiétés spécifiques à ce trouble, et est-ce qu'il y a eu une recrudescence de l'anxiété ?
Alors,
chez les jeunes,
ce qui est sûr, c'est que en général, dans le monde et dans toutes les populations, il y a eu une dégradation de la santé mentale. Et ça, on peut l'expliquer par le fait que la santé mentale, c'est un état d'équilibre qu'on a entre les difficultés qu'on rencontre au quotidien et les ressources qu'on a pour y faire face. Plus on diminue nos ressources personnelles, plus on va avoir du mal à faire face aux difficultés du quotidien, et plus on risque de développer un trouble psychique quel qu'il soit, et notamment un trouble anxieux. Et de l'autre côté, plus on augmente le nombre ou l'intensité des difficultés auxquelles on est confronté, plus on risque également de développer un trouble psychique, d'autant plus si on a des ressources qui sont faibles pour y faire face. Ce qu'on voit avec le Covid, c'est que ça a été un facteur de stress auquel on a tous été confrontés, intense, puisque ça a entraîné un confinement et un repli de chacun chez soi au domicile, sans les liens sociaux qu'on avait, avec des perspectives sur l'avenir qui pouvaient être incertains, assez floues, et qui a duré assez longtemps. Donc finalement, un facteur de stress qui dure dans le temps, plus ça dure, plus on épuise les ressources initiales qu'on vient mobiliser pour faire face. Au début, c'est dur, mais on y arrive, on est en situation de crise. Mais petit à petit, tout ça peut s'épuiser, et encore plus chez des personnes qui vont avoir d'autres facteurs de vulnérabilité. Donc forcément, oui, ça vient augmenter le risque de développer des troubles, et en particulier les troubles anxieux. Donc l'anxiété, il y a quand même quelque chose autour de la peur et de l'inquiétude, et c'est ce que le Covid a pu déclencher. Et puis avec d'autres difficultés qui en découlent, la crise sanitaire, mais également une crise économique. Et puis, au même moment, effectivement, on parle de crise climatique. Et donc, tout ça associé fait qu'on peut devenir plus inquiet. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes qui sont à une période de leur vie où ils sont en pleine construction. Et en voyant le monde dans lequel ils vivent qui peut devenir plus incertain, ça peut être compliqué pour eux de se projeter ou de s'imaginer dans l'avenir. Encore plus que chez des adultes qui ont déjà des bases de sécurité, comme parfois une stabilité professionnelle, une stabilité financière, des relations qui sont bien installées, une famille pour certains. Voilà.
Justement, est-ce que dans tes consultations, les jeunes parlent d'éco-anxiété ? Enfin, est-ce que toi, tu retrouves de l'éco-anxiété ? Est-ce qu'ils te parlent de la peur face au réchauffement climatique ?
Il y en a quelques-uns. Ce n'est pas du tout la majorité des jeunes, mais c'est vrai qu'avant le Covid, il n'en avait jamais été question. Et là, il y en a quelques-uns qui ont pu amener ces questions-là. Souvent chez des personnes qui ont déjà un tempérament assez anxieux et une tendance à se poser aussi beaucoup de questions existentielles, à être aussi bien au courant de ce qui se passe dans le monde.
À partir de quand faut-il consulter quand on est anxieux, stressé, angoissé?
À partir du moment où on en souffre, donc ça entraîne un retentissement, on n'arrive pas à faire les choses. Dans tous les cas, si quand on est anxieux, on a besoin d'en parler, c'est déjà bien, et déjà on peut aller voir différents professionnels qui sont dédiés à l'écoute, les psychologues, pour les jeunes, les points écoute, les maisons des adolescents. Vaut mieux pouvoir en parler que de rester seul avec ça.
Et on peut voir aussi des médecins.
Et on peut voir aussi des médecins. Alors les médecins, c'est d'autant plus important quand il y a un retentissement sévère ou une souffrance importante qui peut entraîner des symptômes dépressifs ou une incapacité toujours à faire les choses du quotidien et que ça dure dans le temps.
Et comment tu expliques cette recrudescence de troubles anxieux scolaires liés à la scolarité ? J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus.
Effectivement, c'est également le retour que peut faire l'éducation nationale, que la question de phobie scolaire ou de refus scolaire anxieux augmente de plus en plus. Bon, pareil, si on reprend l'image de cette balance entre nos facteurs de stress et nos ressources pour y faire face, on peut tenter de l'expliquer par cette voie-là. Peut-être aussi que, ça c'est vraiment une hypothèse personnelle, mais que dans notre société, on a moins de ressources pour faire face à des difficultés du quotidien. On est quand même dans une époque où les choses sont relativement faciles par rapport à des générations antérieures, où on peut avoir des choses assez facilement et où on est moins habitué à faire face à faire face aux contraintes, et notamment les enfants. Du coup, on n'a pas forcément développé nos capacités à faire face aux difficultés de la vie, à faire face à la contrainte ou à l'inconfort aussi. Donc on n'a pas forcément toujours les ressources pour faire face au stress quotidien que peut être l'école, de se confronter à de l'apprentissage, à des performances, à des difficultés relationnelles que tout enfant va rencontrer dans la cour de récréation, parce que c'est là qu'on apprend aussi à gérer les conflits, à se confronter à des difficultés particulières. Et puis, parmi ceux-là, il y en a pour lesquels, effectivement, ça va être plus que du stress. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que parmi tous ces refus scolaires anxieux et ces phobies scolaires, pour certains, ça va être plus du stress et pas envie d'aller à l'école. Mais on entend beaucoup parler de phobie scolaire, donc on va utiliser ce terme. Et il faut faire attention à ce qu'on met derrière. Et pour d'autres, ça va être de réels troubles anxieux qui vont être en lien avec des difficultés auxquelles ils font face à l'école, qui peuvent être variées. Ça peut être une anxiété de performance, donc la peur d'échouer, mais ça peut être aussi une anxiété sociale, avec un retentissement important de difficultés relationnelles que les personnes peuvent rencontrer. Ou encore, ça peut être, il peut y avoir également d'autres troubles anxieux cachés derrière ce refus scolaire et anxieux. Donc, dans tous les cas, à partir d'un moment où de façon prolongée, un jeune n'arrive plus à aller à l'école, évoquant un refus scolaire anxieux ou une phobie scolaire, il ne faut pas tarder à consulter. Parce qu'avec les bons outils, rapidement, on peut les aider à retourner sur les rails de l'école. Et si on laisse durer, c'est de plus en plus difficile d'y retourner.
Merci beaucoup.
Alors, les bons outils pour aider ces jeunes face au stress, face à l'anxiété, à l'angoisse, aux phobies. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont-ils?
Ce que disait ce médecin concernant la balance stress-ressources, c'est quand même quelque chose de fondamental. La notion d'information. Moi, ce que je repère beaucoup chez les adolescents, donc effectivement, on a repéré à l'école des parents une augmentation de l'angoisse chez les jeunes depuis 3-4 ans, hein, et cette surinformation des jeunes. Et nous, on commence un peu à vraiment, c'est pas qu'un peu, mais au niveau des écrans et au niveau de comment les jeunes sont accompagnés sur ce qu'ils entendent parler, sur les informations qu'ils reçoivent en permanence. Ils sont connectés en permanence sur leurs écrans. Et il y a vraiment ce phénomène quand même qui est assez général, je trouve, de jeunes qui sont confrontés à énormément d'informations négatives.
Et parfois fausses.
Parfois fausses, sans forcément repérer, en tout cas, prendre du recul sur la source de l'information. Et qui boivent comme ça, et qui sont attaqués vraiment par des informations toxiques. Et je pense que nous, les adultes, on a vraiment un vrai défi actuellement de les accompagner, de les préserver et de leur permettre d'échanger autour de attention aux écrans et attention à ce qu'on y voit, parce qu'ils sont quand même ultra connectés et beaucoup plus que nous. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un vrai souci.
Juste une petite nuance sur ce que tu dis. Oui, absolument, c'est notre travail aussi de déconstruire parfois des fake news ou des informations, enfin en tous les cas d'en parler. Le problème, c'est qu'eux n'en parlent pas toujours, ne font pas toujours part de ce qu'ils reçoivent via les écrans. Tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur portable, qu'on leur prenne leur portable en disant « Mais regarde, tu regardes des bêtises, tu regardes n'importe quoi, stop, je te le confisque, etc. » Ce qui va être la réaction de certains parents. Donc, ils se gardent bien de nous dire ce qu'ils ont vu.
Alors moi, je vais pas l'aborder de cette façon. Je vais me aborder en prenant moi comme exemple, en disant « Je suis adulte et je suis moi-même pas outillée pour recevoir autant d'informations au quotidiennement. » Donc, voilà, juste de leur signifier cela, que je radicalise un peu les choses, mais ils sont bombardés d'infos et que c'est trop, et que n'importe quel être humain ne peut pas recevoir autant d'informations que moi-même en tant qu'adulte qui est déjà un peu avancé en âge, je n'y arrive pas. Donc je peux tout à fait entendre quand t'as 15 ans, évidemment tu peux pas, c'est impossible. Donc c'est peut-être signifier ça, pas interdire les écrans, parce que de toute façon on sait bien que l'adolescent, l'écran, enfin le portable est une partie d'eux, c'est un prolongement de leur être. Donc on peut pas leur interdire, mais juste leur signifier que c'est tout à fait normal d'être angoissé face à une trop grande quantité d'informations, que c'est pas pathologique. Voilà, c'est peut-être ça que je voulais poser, quoi.
Oui, ils sont voilà,
ils sont surexposés.
Une des raisons pour lesquelles ils sont aussi plus perméables au stress. Et puis il y a aussi le fait que ils ont, pour certains, pour les plus jeunes, le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose face à tout ça. cette espèce d'impuissance qu'ont les enfants à se dire mais voilà je subis tout simplement parce que je suis encore dépendant de mes parents, de enfin voilà c'est pas moi qui fais tous les choix que je souhaiterais faire et donc finalement j'en prends plus plein la figure voilà parce que je ne suis pas maître de ma vie, de mon destin par rapport à mon âge.
Oui, et puis il faut pas oublier que l'angoisse crée aussi certains comportements, hein. Donc l'anxiété, on le sait, l'anxiété fait aussi qu'on est plus sur les écrans, parce qu'on est dans le virtuel, on s'évade. Et donc ça entretient,
c'est
en fait.
C'est tout le paradoxe.
C'est tout le paradoxe, les comportements d'évitement, hein, ça angoisse, donc je ne fais pas. Donc c'est là où ça devient, à un moment donné, aussi très visible, hein, notamment dans le... troubles scolaires anxieux, hein, où on ne va plus à l'école parce que, voilà, et pour y revenir, eh bien, il y a tout un travail à faire, donc comme tu disais, des outils, c'est le cycle, briser le cycle du comportement d'évitement et petit à petit aller devant le collège, juste en voiture, sortir de la voiture sur le parking, vraiment petit à petit, et former à nouveau des expériences positives auxquelles l'ado, peu importe l'angoisse, peut se raccrocher en disant en fait ça se passe bien, ça s'est bien passé la dernière fois, donc la prochaine fois probablement ça peut bien se passer aussi. Et voilà, donc ça c'est des outils de gestion des émotions, de savoir gérer son stress. Ça évidemment on devrait l'enseigner à l'école, hein, j'en suis convaincue. Voilà, gérer ses émotions, son stress, c'est quand même primordial. Pouvoir en parler, c'est aussi que les enfants qui arrivent, ou les ados qui arrivent plutôt à dire ce qu'ils ressentent, peuvent, enfin, rentrent moins souvent dans la pathologique, on va dire.
Bien sûr. Hein.
Ils développent leurs ressources. C'est ça. Plus ils ont de l'écoute, plus ils ont des espaces d'écoute, plus ils trouvent les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes.
Bien sûr.
Parce que du coup, ils ont les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes, mais par contre, comment, ce que tu disais, en fait, gérer le stress, c'est aussi savoir ce que c'est, l'identifier. En fait, c'est donner de l'information sur comment est-ce que fonctionne le corps, comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. Et du coup, c'est reprendre de la maîtrise. On disait que, du coup, c'est difficile de maîtriser. Et en fait, la maîtrise, c'est de l'information. Et plus je vais avoir de l'information sur ce que je suis en train de vivre, et ce que ça me fait, est-ce que ça m'handicape aussi, ou est-ce que ça m'handicape, plus je vais pouvoir me réapprivoiser, retrouver mes compétences. Tiens, là, où est-ce que j'ai les compétences? Où est-ce que j'ai perdu la compétence? Et surtout, où est-ce que je suis capable de la mettre en place, cette compétence? Et où est-ce que c'est difficile? Et petit à petit, retrouver de la confiance en soi, de la sécurité autour de ces compétences, parce que j'ai eu des espaces d'écoute sans conséquence. Quand je parle d'espace d'écoute, c'est vraiment cette écoute active où c'est pas parce que je parle que derrière il va y avoir une conséquence. Tiens, lever de bouclier, les parents qui vont aller,
prendre le portable,
ou qui vont aller envoyer des mails au professeur, etc. C'est vraiment cette écoute où il n'y a pas de conséquence derrière. J'ai juste été écoutée et moi je vais développer mes propres ressources.
Voilà. On le disait aussi, l'importance de mettre des mots sur ses émotions. Vous travaillez beaucoup sur l'émotionnel, à grandir ensemble.
Tout à fait. C'est vraiment le cœur, c'est le prérequis, pour moi c'est le prérequis à tout autre outil. Pour moi le prérequis à tout autre outil, c'est vraiment poser des mots sur ce que je suis en train de vivre, mettre de la conscience sur tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi à l'intérieur de moi, mais pas que au terme rationnel. C'est aussi en termes physiques.
Oui, de ressenti
dans mon corps, qu'est-ce qui se passe.
Mais c'est ce qu'on disait, c'est que ça devrait être accompagné dès la prime enfance et en prévention précoce, c'est-à-dire dans les classes, d'apprendre aux enfants à écouter leurs ressentis. Ça serait déjà une énorme avancée. Il y a eu des tentatives, mais bon, malheureusement, en France, on est encore sur des débats là-dessus.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que apprendre aux enfants à s'écouter et apprendre aux personnes qui sont en contact avec eux à les écouter de façon, ce que je disais, active, sans qu'il y ait de conséquences.
De conséquences à leurs émotions.
Juste une écoute, sans qu'on ait... Parce que souvent, derrière, quand on est en posture non professionnelle, parents, accompagnants extérieurs, oncles, tantes, que sais-je, grands-parents, on peut se retrouver dans cette envie d'agir.
D'agir, bien sûr.
D'aider, d'agir, d'être dans l'aide.
Fait passage à l'acte, du coup, qui est très dangereux. Et c'est vrai que, pour rebondir à ce qui venait de dire, c'est que l'angoisse, hein, si on prend vraiment ce que ça vient de dire. L'angoisse, c'est quand on perd le contrôle. Hein. Oui. Ça vient signifier qu'on perd le contrôle.
Ça vient général et qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. C'est ce qu'elle a très bien expliqué. Ouais, c'est très agréable à écouter, cette psychiatre.
Elle perd le contrôle, mais on perd le contrôle des objets extérieurs. C'est-à-dire que le monde nous échappe. Et ce qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on est face quand même dans une société où peut-être on nous a fait croire pendant quelques décennies qu'on pouvait contrôler les choses. Or, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et le Covid en a été un exemple flagrant. On ne contrôle pas ce qui se passe. Et c'est vrai que le fait de pouvoir activer les émotions, ça permet de retrouver le contrôle interne. Et ça, c'est un vrai...
Parce que ça, on peut, par contre.
Ça, on peut le faire.
Voilà, le contrôle interne, on peut.
Ça, on peut. Alors que, oui, moi, je dis aux ados, on n'a pas la main sur ce qui se passe dans la société. Oui, tu as raison.
On n'a pas la main sur les autres.
On n'a pas la main sur les autres. On n'a pas la main sur ce qui se passe au niveau du monde, au niveau mondial, au niveau des guerres, au niveau des maladies,
au niveau de l'environnement,
on n'a pas le contrôle. Et c'est ça qui a amplifié l'angoisse, hein. C'est que une société qui nous a fait penser là, qui nous a fait croire depuis une quarantaine d'années qu'on pouvait avoir le contrôle, ce qu'il faut.
Alors, par contre, on peut avoir le contrôle sur soi, enfin, en tous les cas,
développer des ressources
personnelles, notamment, comme je disais, la gestion des émotions, mais la respiration, les techniques de pleine conscience,
bien sûr,
qui sont extrêmement efficaces.
Tu pensais à la méditation?
Oui, on préfère pas l'appeler méditation, puisque
pleine conscience,
il faut plus, hein, donc c'est la pleine conscience maintenant, toutes les techniques de pleine conscience et qui sont extrêmement efficace et qui redonne effectivement le contrôle.
Moi j'avais envie de mettre une nuance autour de cette notion de contrôle. C'est justement, on n'a pas le contrôle, mais par contre on a du pouvoir personnel. Mmh. Et en fait c'est vraiment ça, c'est ne pas amalgamer contrôle et pouvoir personnel. Mmh. On a un pouvoir sur soi-même, d'action, de conscience, etc. Mais le contrôle, c'est quelque chose qui peut nous échapper, et c'est pas grave, en fait. En soi, c'est pas grave de perdre le contrôle. Ce qui est important, c'est pas de perdre son pouvoir personnel. Quand elle en parlait, c'est cette fonctionnalité. Quand on n'arrive plus à fonctionner, c'est la perte de pouvoir de soi-même.
C'est là où ça fonctionne plus, ouais. C'est effectivement. Oui, c'est réguler, c'est être en capacité de se réguler. Tout à fait.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain, le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste.
Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre, pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme, quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne, sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
C'était Orelsan avec La Quête, une chanson qui parle bien de grandir, de l'adolescence et de l'enfance, enfin les différents passages. Hein. Mmh. On poursuit dans ce conseil de famille, on parlait d'anxiété, on poursuit et on termine avec quelques conseils. Comment faire face à toutes ces angoisses, comment aider les jeunes face à leur anxiété.
Alors moi déjà, j'ai un premier point, c'est ne pas attendre la demande. Enfin, comment je pourrais dire ça autrement? C'est-à-dire que les adolescents, ils demandent pas forcément quand ils sont pas bien. Et c'est à nous de repérer par rapport à des comportements plutôt corporels. Ça, c'est une vraie demande. C'est-à-dire que des fois, les jeunes, ils ont beaucoup de mal à relier ce qu'ils vivent avec ce qu'ils ressentent. Et c'est à nous, les professionnels, de peut-être y aller doucement et d'apprivoiser le jeune. Voilà, c'est un apprivoisement d'aller vers l'accompagnement des jeunes, je trouve. Parce qu'on a souvent tendance à attendre que le jeune fasse une vraie demande. C'est-à-dire, j'ai ça comme symptôme et j'ai besoin de ça. Sauf que le besoin chez l'ado, c'est un peu délicat des fois à repérer.
Oui, des fois le symptôme est très très loin aussi de la cause réelle.
Mais tout à fait. Mmh. Mmh. C'est un accompagnement particulier l'adolescent. Moi, je sais que. Oui.
En tant que parent, c'est pas facile parce que à cet âge-là, n'est-ce pas, ils sont en pleine opposition, ce qui est normal avec ses parents.
Donc ils vont pas tout nous raconter.
Ils vont pas tout nous raconter. De toute façon, on est nuls et périmés. Donc on comprend rien. On est gaze, tous ces mots qu'ils utilisent aussi et qui nous rappellent qu'on n'est pas plus tout jeune non plus, parce qu'on ne comprend plus grand-chose. Donc, ne pas hésiter à votre ado de demander juste comment ça va, mm-hmm. De pouvoir lui proposer quelqu'un d'autre que soi. Et d'avoir du tiers par moment, c'est précieux à cet âge-là.
Mm. Merci Anne-Marie. Léa, pour conclure.
Moi, c'est aussi aux parents de ces enfants angoissés de pouvoir aller parler aussi, pour pouvoir accueillir la parole de leur enfant et de pouvoir être en écoute sans être dans une réaction qui les figerait ou qui les inquiéterait ou qui mettrait plus d'inquiétude. Du coup, juste eux aussi aller trouver du relais, aller parler de ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis, en plus, ça modélise. En fait, quand un parent prend soin de lui, quand il met en place des outils face à une situation difficile, ça montre à l'enfant, à l'ado, que en fait, on peut faire ça. Ça modélise, la modélisation beaucoup.
Tout à fait. Merci beaucoup, Léa Baltus. Je rappelle que tu travailles pour l'association Grandir Ensemble.
Merci.
Anne-Marie pour le programme de réussite éducative sur l'ODEV. Et enfin, Maude Fréchoux, psychologue pour l'association l'école des parents et des éducateurs. Merci, Anne, aux manettes de cette émission aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.
À toi aussi.
À toi aussi, Laurent Sarsac, pour la Maison des Adolescents.
Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.